Alors, on vient d'écouter Rodrigo et Gabriella, une chanson qui s'appelle Paris. Chris, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton amour pour Rodrigo et Gabriella?
c'est un groupe que j'avais découvert du coup il y a quelques années et j'avais trouvé incroyable techniquement, puisqu'ils sont que deux et ils arrivent à faire quelque chose d'assez extraordinaire rythmiquement et au niveau des mélodies, etc. Encore une fois, je trouve qu'il y a vraiment cet aspect très tubesque où les mélodies elles restent en tête et je trouvais ça génial et très cinématographique aussi. J'ai l'impression que si on met une musique de Rodrigo et Gabriella sur une scène, ça marche forcément. Bon, après, faut être à la hauteur de la musique, mais c'était à une époque où on cherchait des musiques pour un court-métrage qu'on avait fait, du coup, et on voulait mettre du Rodrigo et Gabriella dans ce film. C'est un film qui s'appelle Histoire de point de vue, qui est sur YouTube. C'est un film qui est tout au point de vue des pieds des personnages. Et on arrive quand même à reconnaître un petit peu leur personnalité juste par rapport aux chaussures et par rapport aux voix. Et on avait trouvé des artistes qui faisaient de la musique à la Rodrigo et Gabriella. Et on s'était régalé à la mettre dessus. Et ça donne une pulsion, une énergie à la scène qui est excellente, je trouve.
Bah oui, justement, en fait, quand j'ai cherché la musique, j'ai pensé à Histoire de point de vue et j'ai cru que c'était Rodrigo et Gabriella. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, j'étais là et pendant, je sais pas, peut-être 20 minutes, je suis allée fouiller dans toutes les chansons de Rodrigo et Gabriella en me disant mais c'est laquelle. Au bout d'un moment, j'ai craqué, je suis allée voir le générique et en fait, c'est un groupe qui s'appelle Jam & Co. Plain, dont on peut écouter un extrait d'ailleurs. Donc c'est un extrait d'une performance live. Ça, c'était un extrait de Jam & Co, une musique qui s'appelle Plain, et donc qui est la musique de Histoire de point de vue. Donc là, tu viens de nous expliquer un peu Histoire de point de vue. C'était l'idée de raconter une histoire, mais avec la caméra qui ne filme que les pieds des gens. Comment ça t'est venu, cette idée?
Je ne sais pas vraiment. Je pense que c'était plus une envie de faire un film concept, un petit peu, qui soit pas cher à faire, où on n'ait pas besoin d'acteurs pros, puisque par exemple, on peut filmer les pieds de n'importe qui. Si la personne elle joue mal, on va dire, au niveau de la voix, on peut très bien la redoubler ensuite très facilement et trouver quelqu'un qui joue mieux, tout simplement. Ça a été le cas, du coup, avec toi, puisque
ouais, oui.
On avait filmé une fille qui faisait un personnage. Ça le faisait pas au niveau de la voix, on l'avait redoublé avec du coup c'était Laetitia, c'était toi.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, mais c'était très rigolo de filmer, de doubler pour des pieds. Mais j'ai l'impression, en fait, et c'est ce qu'on va voir un peu en découvrant ton univers, que il y a vraiment deux pôles dans ton cinéma. Il y a un côté hyper comment dire, absurde, concept, et à côté il y a une espèce de passion pour l'épique, j'ai l'impression.
Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça, c'est moi j'essaie de trouver le compromis en fait entre le second degré, la décontraction, l'humour, quoi, on va dire, et en même temps essayer de faire des histoires qui peuvent être marquantes en termes de par exemple avec des grandes thématiques comme le parcours initiatique du héros ou des choses comme ça dans lesquelles toute personne peut se reconnaître, et c'est des histoires qui nous fascinent à travers les décennies de cinéma, des histoires qui se démodent jamais, on va dire, les grandes épopées, la mythologie moderne, comme par exemple, je sais pas moi, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, etc. C'est des histoires qui reprennent souvent les mêmes codes, mais qui sont jamais désuètes, puisque c'est ça qui intéresse les gens aussi. C'est cette notion notamment de parcours initiatique, genre être quelqu'un et se donner les moyens de devenir la personne qu'on est censé devenir et devenir le héros de l'histoire, etc. Donc, c'est des thématiques intéressantes. Mais pour éviter le côté trop solennel, j'aime bien aussi intégrer de l'absurde et de l'humour là-dedans, pour quand même qu'il y ait un certain recul et une nouvelle vision de tout ça, quoi.
Oui, parce que en fait, là, il faut savoir aussi que il y a quelques semaines, tu as enfin relâché un film qui s'appelle Peau de crème. Alors pourquoi est-ce qu'on rigole ? Parce que Peau de crème glacée, donc, qui est le premier long métrage de Chris. Et combien de temps t'as mis à le fabriquer, Chris ?
10 ans. Enfin, pourquoi... 9 ans, exactement.
Pourquoi cette folie, Chris ?
Bah parce que j'en avais envie. Hein. Je crois que c'est la seule raison. On m'a beaucoup déconseillé de faire ça et conseillé plutôt de faire des courts-métrages pour commencer. Comme je ne suis pas forcément un grand spectateur de courts-métrages, j'avais envie de faire un long. Et ça s'est un peu imposé, d'une part par inconscience absolue, par folie, on va dire. Par le fait aussi que les gens autour de moi sont aussi fous et aussi déterminés à faire du cinéma. Et il se trouve qu'ils sont en plus hyper talentueux et que l'équipe fonctionnait déjà en tant que bande de potes. Il y avait déjà un chef opérateur, une maquilleuse, il y avait des gens qui étaient très bons en tant qu'acteurs aussi amateurs, et qu'on s'est dit ben on le fait, et ça a pris 10 ans. Mais c'était une aventure exceptionnelle, et avec cette notion-là encore de parcours. Même si la finalité, je ne sais pas encore ce que ça va donner, le parcours en lui-même, c'était une aventure qui valait le coup d'être vécue.
C'est vrai, hein, c'est vrai que un documentaire sur la fabrication de ce film serait tout aussi intéressante que le film en lui-même, vrai. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée quand je suis venue voir la projection de Peau de crème glacée, il y a eu ce moment où il y a Kevin, donc, qui est... légalement le chef op du film, mais officieusement le co-auteur, un peu, si j'ai bien compris, de Peau de crème glacée. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand vous avez démarré le film, au début, vous vouliez faire un peu un film à la Dom 95, un peu en se disant, bon voilà, on est jeune, on n'a pas de moyens, donc on va faire un film sans gros matos. Et finalement, Kevin, j'ai l'impression, a été celui qui a dit non mais mec, en fait on est fan de cinéma américain, de grandes épopées, de grandes aventures, il faut qu'on fasse le cinéma qu'on aime. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans tous les projets que vous faites là dans cette bande, parce qu'en vrai là aujourd'hui je t'interviewe toi, mais en fait il y a 2 ou 3 personnes aussi derrière, notamment je pense à Julien Sancaleoni ou à Kevin qui sont souvent autour de tes projets. Et en fait, il y a vraiment cette dimension à la fois cinéma américain, hyper épique, hyper aventurier, etc. Et à la fois un espèce d'humour absurde, de très européen, voire très français.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a ce côté un petit peu Monty Python. Et puis, on est tous fans forcément de Chabat aussi, qui lui-même découle des Monty Python. Son humour découle des Monty Python. Il y a aussi les films des Zaz, du genre « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» etc. Donc, c'est vraiment cette notion de fusionner les genres et les influences. Moi, je vois ça un petit peu comme une sorte de marmite dans laquelle on met tous ces ingrédients. Ça mijote pendant des années. Au bout d'un moment, ce qui en ressort... c'est pas juste de la référence du clin d'œil, mais ça contient ta propre personnalité, et en même temps, pour un œil averti peut identifier toutes ces références là, notamment ce qui fait Tarantino, c'est ça. Bon, lui c'est à échelle mondialement connue, etc., mais c'est un peu ce principe là. Lui, on reconnaît toutes ses influences, mais ça reste quand même des films hyper personnels, puisque ce dont il parle, c'est ce qui lui plaît, en fait, et ce qui le touche, donc voilà, et qui le retransforme à sa manière, quoi.
Ouais, puis c'est un truc, je trouve que c'est très générationnel, hein, parce que je trouve que le cinéma en France a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec notre génération, ceux qui ont maintenant un peu plus proche de 40 ans, etc. Il y a vraiment eu un truc où notre génération, celle des grands frères et tout, on sent qu'il y a eu une influence du cinéma américain qui s'est ancrée dans les cerveaux, dans la façon de narrer, dans les attraits, les histoires. Et du coup, j'ai l'impression que c'est maintenant, en fait, que les producteurs français et les réalisateurs commencent à dire je regarde tous les soirs du cinéma américain, notamment du film d'horreur par exemple, du film de genre, c'est bizarre finalement qu'en France on produise pas tant du film de genre. Et d'un autre côté, donc c'est là aussi où je trouve que d'une certaine façon tu fais un peu partie de cette génération-là qui a intégré le cinéma américain au point où maintenant, quand on fait du cinéma, on peut, c'est très difficile pour nous de faire du cinéma qu'avec les codes français, européens, tu vois.
Oui, c'est ça, d'autant plus que maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Du coup, nous, quand j'ai commencé à faire de la vidéo et tout, c'était dans les années du coup 2000, début 2000. Déjà, il y avait ce foisonnement de cinéma populaire qui a explosé encore plus qu'avant grâce à l'essor du numérique et des effets spéciaux numériques. Donc, et on a eu une décennie incroyable dans les années 2000 où tu avais tous les ans, ils sortaient un Harry Potter, un Seigneur des Anneaux, un Star Wars, un Matrix. Tout ça, en fait, allié au fait que les technologies changeaient et devenaient de plus en plus accessibles. Ça a commencé avec les caméras numériques DV, etc. Puis ensuite, on a eu des appareils photo qui avaient une super bonne qualité pour filmer. Puis au lieu d'avoir des bandes montage, on a des logiciels sur des ordi qui permettaient à n'importe qui de faire des films. Et du coup, ça, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. Alors ça a des mauvais côtés aussi, c'est que tout le monde pense qu'il peut faire un film et que tout le monde a envie de donner son truc. Tout n'est pas forcément excellent, mais en tout cas, au moins tout le monde en a la possibilité. Et si quelqu'un a vraiment quelque chose à dire et une énorme envie de cinéma, il peut y arriver. Ouais. Voilà. On s'est engouffré là-dedans justement avec cette bande de potes.
Bah oui, d'ailleurs sur la bande de potes, moi ce que je trouve génial, enfin c'est ça aussi qui a fait peau de crâne, je pense, c'est que déjà c'est l'amitié absolument formidable que tu as avec Julien. Moi pour moi, quand je présente votre travail, quand je te présente toi à des gens qui vous connaissent pas, souvent je leur dis, moi j'ai été en BTS audiovisuel avec Julien, et en fait Julien et Chris c'est comme des jumeaux. Ils sont nés ensemble, leurs parents se connaissaient déjà, leur existence s'est imposée à l'autre.
C'est ça.
Et en fait, c'est un peu des jumeaux de cœur, quoi. Et donc en fait, et ça se ressent, je trouve, notamment dans Pot de Crème, il y a une espèce d'âme comme ça qui vient d'une amitié très forte. Et en fait, tout le reste de l'équipe, en fait, c'était les collègues de classe de BTS de jus, quoi. Mais il y a quand même cette amitié là très forte, et ça je pense que c'est un truc que j'ai vachement envie d'appuyer quand on te présente, parce que de toute manière on peut voir tes projets et les kiffer et sans se poser de questions, mais en fait l'âme et le rire pas mal qu'il y a dans ces projets là il est dû d'une amitié, quoi.
Ouais, c'est ça, cette complicité. Nous on a commencé à faire de la vidéo quand on avait genre 12-13 ans, inspiré par nos pères du coup qui étaient amis avant nous, avant même qu'on naisse, quoi, et qui s'étaient tentés, qui s'étaient essayés à faire des courts-métrages à l'époque des caméscopes cassettes, quoi. Quand on a vu ça, on a été
le
fascinés.
Le mépris dans ta voix, des caméscopes cassettes.
Non,
quoi.
Mais c'est très bien, c'est des très bons films, c'est super, c'est vraiment génialissime.
Tu crois vachement.
Mais n'empêche que quand on a vu ça, ça a fait tilt, en fait. On s'est dit, ah ouais, mais attends, c'est possible de faire des films, genre. Et du coup, on s'est mis à filmer plein de choses, tous les deux, du coup, avec Julien. Et c'était passionnant, après, d'acquérir de nouvelles techniques. D'un coup, on découvre Windows Movie Maker, justement.
Wow.
Et on se dit, waouh, mais c'est incroyable. On peut mettre les plans à la suite, on peut couper des morceaux et tout. D'un coup, il y a tout un univers qui s'est ouvert.
Oui, parce que les films de vos papas, c'était du tourné-monté.
C'était du tourné-monté, oui. Je crois qu'il y a eu un petit banc de montage à un moment, mais un truc...
C'est chaud, hein. Moi en BTS je me suis retrouvée genre on était la première section à ce qu'on nous demande plus le montage bande magnétique dans notre promo, mais par contre on a été formé pendant un an là-dessus, mais c'est une machine de guerre, le truc, quoi. C'est le montage sur ce qu'on appelle le bank cut, donc le banc de montage, c'est un meuble, le truc. On dirait les espèces de vieilles stéréos de chez tes grands-parents, où genre tu dis mais pourquoi il y a 15 blocs comme ça qui servent à rien. C'est pas du tout le genre d'équipement que t'as chez toi, quoi.
Ah non, c'est clair. Puis après il y a ce côté avec les nouvelles techniques de montage, il y a ce côté très intuitif qui permet c'est génial, on peut faire énormément de choses, beaucoup plus, et de façon plus simple et plus accessible pour tous.
Moi je vois en tant que monteuse la philosophie, la mentalité que t'as quand tu montes sur des bandes magnétiques et sur des bancs virtuels, rien à voir, parce que sur des bancs virtuels t'essayes des trucs, tu vois, ça marche pas, c'est très épicurien comme montage. À l'ancienne, en fait c'était chiant vraiment de faire du montage sur bande magnétique, donc en fait en général t'allais plutôt avoir un papier où tu allais écrire ton montage en disant voilà, pendant si ma vidéo elle dure 5 minutes, pendant 30 secondes j'ai l'introduction sur le mec qui parle des saucisses, ensuite pendant 2 minutes j'ai le mec qui est en train de fabriquer les saucisses, tu vois, et tu savais quel plan, en fait t'écrivais les plans que tu voulais dedans, et du coup tu avais une espèce d'anticipation de fou parce que le temps de manipulation était hyper long, alors qu'aujourd'hui en montage virtuel t'essayes, tu dupliques des séquences, tu dis ah bah vas-y fais une version comme ça, une version comme ça, on voit, c'est pas du tout la même mentalité en fait, hein.
Bien sûr, carrément, et ça permet d'avoir une meilleure qualité aussi, puisque plus tu repasses sur un montage et plus tu proposes différentes versions, etc., et plus tu te rapproches du montage final, quoi. C'est bon aussi de travailler et retravailler le matériau, quoi.
Alors moi j'ai envie qu'on écoute Juliette, l'éternel féminin.
Dans mon sous-sol crasse où brûlent mes fourneaux, où les âmes damnées grillent de bas en haut. Regardez qui est là, qui attise les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme et vous vous en doutiez, la place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, comment pour m'invoquer faut-il que l'on m'appelle? Mes diables et mes hommes, et Dieu même en personne, tout simplement me nomme patronne. Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On l'attend proclamer sur un ton formidable, le diable est une femme, les femmes c'est le diable. Et qu'elles soient victimes ou qu'elles soient complices de leurs malheurs et fils et de leurs maléfices, frappez dans les premiers talibans ordinaires ces démons adorés, car il faut les faire taire. Calcinée, lascive et si cruelle, messieurs, venez m'aider à ôter mes dentelles dans vos brûlants émois, ainsi que je l'ordonne. Allez, appelez-moi patronne. Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice, consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses, qui susurre les ordres et les avis funestes, vous mes sœurs les salopes, les putains et les bestes. Derrière chaque type sans foi ni loi ni âme, si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme, la gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia et la maman d'Hitler. Mon lit calciné, lascive et si cruelle, je vous attends, venez, mes belles demoiselles, que votre dernier mot, que la vie abandonne, soit dans un soubresaut, patronne! En attendant, je compte vos crimes et vos bassesses, tous vos pieux mensonges et vos histoires de fesses. J'encourage le vice, je provoque des guerres, je dirige le monde et Dieu me laisse faire. Parce que Dieu se fout bien de vos petits tourments, avec ses anges blancs dans son blanc firmament. Dieu est tellement belle, c'est une femme généreuse, mais ne vous y fiez pas, ça déguise la lumeur. Réponds à l'appel. Et pour me faire venir d'une voix qui frissonne, il suffit de redire patronne.
Alors, on vient d'écouter l'éternel féminin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette chanson, elle est importante ?
Elle est importante parce que j'ai été frappé un petit peu par la justesse des paroles et le ton qui était employé par Juliette. Ce ton justement très c'est très frontal et en même temps il y a énormément de recul et de second degré dans les paroles et des doubles sens excellents. Ce côté irrévérencieux aussi que j'ai beaucoup aimé. En fait c'est une musique que j'ai mis dans l'intro dans la scène d'intro de mon film. On a carrément monté une scène complète entièrement en fonction de cette musique, une sorte de clip, une scène d'intro un petit peu grandiloquente, type méchant de Disney qui chante pourquoi il est méchant et qui se régale et qui rigole dans sa salle du trône. On trouvait que ça allait très très bien avec la méchante de Peau de crème glacée du coup. Donc voilà, c'est une amie qui m'a dit mais cette musique là, écoute là, on dirait vraiment la méchante de ton scénario. J'écoute ça, je fais ah ouais ok, bon ben faut la mettre dans le film.
Est-ce que tu peux d'ailleurs, parce qu'on a oublié complètement de pitcher le synopsis de Peau de crème, parce que nous on a l'habitude d'en entendre parler depuis des millénaires, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu Peau de crème glacée?
Ben Peau de crème glacée, voilà, bon c'est déjà une volonté filmiquement, c'est une volonté de mélanger les genres, donc déjà ce truc là, donc c'est à la fois un film noir, ça commence comme un film noir, donc détective en noir et blanc, etc., avec une imagerie très très classique, mais avec aussi des influences un peu films d'horreur et puis films d'aventure, road movie un petit peu, buddy movie aussi, c'est des films où il y a un duo comique qui s'inscrit aussi un peu dans une forme de tradition française, puisqu'il y a énormément aussi de buddy movie, notamment La Chèvre, Les Compères, etc. Donc un personnage qui est un peu bébête et puis l'autre qui est plus premier degré, un petit peu brutal et qui a des réactions par rapport aux personnages un peu con qui sont drôles, du coup cette opposition. Bref, en tout cas le film, donc c'est Bernard, un détective alcoolique qui se fait larguer par sa femme et qui se retrouve sur une enquête pour retrouver un artefact magique. Donc voilà, mais c'est totalement une sorte de prétexte à l'histoire, donc ce qu'on appelle un MacGuffin. Et en fait, il se retrouve à devoir faire équipe avec l'amant de sa femme, qui est en fait un pute.
voilà. Tu es très fier de ça. Ça fait 10 ans. T'es très fier de un pute.
Un pute, ouais. Pas gigolo, genre pute, parce qu'il n'y a pas de raison. Le mec, c'est un pute aussi. et du coup, ces deux mecs qui sont que tout oppose à la base et qui ont un peu de rancœur l'un envers l'autre, se retrouvent à embarquer dans une aventure. Folle, fantastique, il les mène jusqu'à un château épique au sommet d'une montagne où il y a une grande méchante dans la pure tradition Disney qui possède l'objet en question.
Mais d'ailleurs, voilà. Moi, ce qui m'a étonné dans cette histoire, dans cette fabrication de film, c'est que c'est pas seulement l'histoire, tout le travail d'acteur et tout, c'est qu'aussi t'es un brillant maquettiste. C'est un peu un truc de moi, quand je te voyais travailler, t'étais un peu en mode bah ouais, je fais des maquettes parce que je sais le faire et que j'ai pas l'argent de payer un maquettiste. Mais en vrai, je veux dire, si t'avais voulu faire carrière dans la maquette, t'aurais pu, quoi.
C'est pas impossible que je m'y mette si je choisis une voie précise à un moment. Genre, faire ça, c'est vrai que ça m'intéresserait, tout ce qui est décor, maquette, etc. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ce qui m'importait, c'était raconter une histoire. Et si ça pouvait m'aider à la raconter de la façon que j'imaginais, avec l'aspect fantastique qui va avec, vu que je savais faire des maquettes, je l'ai fait. En l'occurrence, ça m'est venu de mon amour pour le Seigneur des Anneaux et tous les suppléments, les bonus qu'on peut voir sur les Blu-ray et DVD de ça, qui durent 10 heures. Et quand tu vois ça, tu te dis putain, mais je veux absolument faire des maquettes parce que ça donne un côté palpable et organique à ce qu'on voit. Qu'on n'arrive pas à retrouver avec le numérique. Et du coup, je trouve que beaucoup de gens, même pas forcément initiés, remarquent ça de façon presque. Comment dire, de façon.
Instinctive.
Ouais, instinctive. Ils se disent, ouais, mais là, ça fait vrai. Et ben oui, parce que c'est vrai, en fait.
Oui, parce que c'est vrai. Ouais. On va écouter un peu des musiques originales du film, et puis tu vas nous parler après de leur compositeur, si tu veux bien.
Bien sûr.
Si tu me dis, non, laisse-moi tranquille, je te mets autre chose. Hein, mais
non, me laisse pas
ça va.
Thank you.
Alors Chris, est-ce que tu peux nous présenter un peu le compositeur de ton film ?
Tout à fait. Du coup, la musique qu'on a entendue en premier, qui était donc plutôt orchestrale et épique, c'est une composition du coup de Romain Montiel, qui est donc le compositeur de mon film, donc Poitrine glacée, et qui a fait toute la BO orchestrale du film, donc en dehors de, par exemple, l'Éternel féminin qu'on a entendu de Juliette tout à l'heure, des musiques qui existaient déjà avant, c'est lui qui a fait toute la BO, donc les thèmes des personnages. Ça, c'était une volonté qu'il avait eue dès le départ et avec laquelle il était totalement OK, c'était de faire une musique qui était thématique dans le film, dans la tradition un petit peu de John Williams, etc., que chaque personnage ait un thème et des instruments qui lui soient associés. Et là voilà, donc c'est une des musiques qu'il y a vers la fin du film et qui, enfin voilà, il a fait un travail vraiment exceptionnel. Il a compris absolument tous les aspects du film, le ton exact qu'il fallait donner, c'est-à-dire prendre au sérieux un film qui n'est pas sérieux, et du coup ce qui renforce l'humour en fait. Il a beaucoup pris comme exemple les films des Az, par exemple, donc Y a-t-il un pilote dans l'avion, où il y a ce recul, ou même les films des Monty Python, genre Sacré Graal, où la BO elle est sérieuse, c'est une vraie BO, par exemple Sacré Graal, de films de chevaliers, etc. Mais il se passe des choses absurdes. Donc du coup, lui il parlait beaucoup de contraste, en fait, de décalage au niveau de la musique. Et voilà, il a tout à fait su saisir ça.
Ouais, c'est prendre la blague au sérieux, quoi. Et la deuxième partie, du coup, tu me disais que c'était donc une reprise du même thème, version plus western. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Dans les projets, notamment, je pense beaucoup quand je joue dans les projets, il y a toujours un moment de western, quoi.
Ouais, il a un petit peu cette on s'est souvent dit qu'il avait un côté mystérieux à la western, en mode l'homme sans nom, puisqu'il plisse les yeux comme ça, il parle pas beaucoup, il sait faire des têtes un petit peu genre Clint Eastwood. Donc c'est vrai que ça nous a toujours inspiré un petit peu ça. Et puis il y a aussi d'autres influences dans la deuxième musique qu'on a entendue, donc la deuxième version. Ce côté sifflé et tout, c'est pas uniquement western, mais c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, cette tradition de voilà, ces films avec des musiques de Vladimir Kosma, donc genre La Chèvre, Les Compères, etc., où il y a ce côté sifflé qui donne un côté à la fois drôle et en même temps mélancolique. Et je voulais absolument avoir une version du thème de Fabrizio, du coup le personnage, dans ce ton là pour donner un petit peu sur la fin du film une note un peu aigre-douce comme ça, une sorte d'espoir, et en même temps c'est marrant, et en même temps c'est un peu triste, voilà.
Oui, c'est ça la fin du film, bon, on va pas vous la spoiler, mais la fin du film est très drôle et implique un tuyau d'arrosage. Voilà, je vous souhaite de voir Poitrine glacée, qui pour moi est un film culte. D'ailleurs, en pensant au côté western, je pense à un autre de tes projets que j'aime beaucoup, c'est une web-série sur YouTube qui s'appelle Oui. Et notamment, il y a un épisode où qui me fait mourir de rire en mode western. Je sais pas si vous l'avez filmé au Frioul ou quelque chose comme ça.
C'est filmé à Vitrolles, vers Valbacol, en fait, où il y a des collines rouges qui font très très western, justement, où à peu près 100% des gens qui font de la vidéo dans le sud ont tourné une scène un peu western là-bas. C'est vraiment, quand tu vois ça et que t'as déjà fait ça, tu fais ah oui, d'accord, c'est à Valbacol, bon allez.
Alors je peux pas vous faire écouter l'épisode de western, parce que c'est un truc dont je me suis rendu compte quand j'ai préparé cette émission, c'est que en fait, dans ton cinéma et notamment dans la websérie, il y a énormément de gags visuels, en fait. C'est, l'image est hyper importante. Mais j'ai quand même réussi à vous trouver un épisode de Oui, donc qui sont des mini-séries, à chaque fois ça dure, chaque épisode dure peut-être une minute ou deux max. Et donc j'ai réussi à trouver l'épisode 3 qui s'appelle Le Bébé et qui peut s'écouter entièrement. Donc je vais vous laisser découvrir la série Oui.
T'es gris, ça ne déconne quoi. Qu'est-ce que tu fous de ta vie? Tu fais rien. Faut que tu t'organises un peu. Je sais pas, que tu fasses une liste, que tu fasses des listes. Putain, à un moment donné, tu fais aucun effort. Crie, putain, tu es bébé. Oui!
Donc, si j'ai bien compris, tout le principe de Oui, c'est que quoi qu'il se passe dans l'épisode, il faut que ça se termine par Oui.
Ouais, voilà, c'est ça. On trouvait que c'était assez. En fait, que c'est un mot qui. Vu que c'est quelque chose d'ouvert, En fait, il est drôle ce mot parce que il ouvre vers un délire. En fait, si c'était non, on a pensé à faire la suite de la série qui s'appellerait non. Du coup, la deuxième saison, mais genre à chaque fois, chaque épisode se termine par un oui, et le but c'est d'essayer de manipuler le spectateur pour qu'il s'y attende pas. C'est de plus en plus difficile au fur et à mesure parce que les spectateurs, ils se disent ouais, bon, mais ça va être oui. mais voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec l'attente, justement. On sait que ça va être oui. Mais là, par exemple, il faut le voir en vidéo. Mais ce qui se passe, c'est particulièrement con. Et vraiment, ça, c'est un projet qui a été fait dans cette volonté de décompresser par rapport à Pot de Crème Glacée, qui était un projet de long terme, très difficile à faire, avec des gros défis. Et là, c'est plus en mode, on est une bande de potes, on a envie de faire des petits sketchs très courts. Il y a des épisodes qui durent 10 secondes. Et juste, on rigole. Et là, par exemple, dans cet épisode, on voit que celui qui est en amorce, en premier plan, il éclate de rire, en fait, au moment du oui. C'était des trucs qu'on a tournés, on s'est vraiment, vraiment marré à le faire, quoi.
D'où ça vient, ce truc que vous avez, là, dans votre bande de potes, de tous vous appeler
Ça vient du fait qu'on a des lésions cérébrales, je pense. Juste, on est en mode voilà, taré.
ces choses arrivent. Voilà. Ok, on arrive presque à la fin de cette émission. Du coup, je te propose de faire un petit quiz.
Ok.
Donc, il ne faut pas que tu regardes mon ordi, sinon c'est de la triche.
Pas.
Voilà. Reconnais la musique.
C'est le Seigneur des Anneaux.
Oui, bravo.
Au World Tour.
Je m'attendais à ce que tu le trouves assez rapidement. Le quiz est très facile. Et il me semble que tu en as un peu parlé. Le Seigneur des Anneaux, ça fait partie des choses, des grandes épopées qui t'ont marqué. Ouais.
Très largement.
Allez, deuxième morceau. Hop, que je le retrouve. Ah, intéressant, on va faire ça.
Là, je vois pas. Je dirais, ce serait peut-être le groupe qu'avait Danny Elfman avant d'être compositeur. Je sais pas, Oingo Boingo, un truc comme ça. Pas du tout.
Non, je crois pas. C'est une musique d'un film que tu m'as forcé à voir et que je n'ai pas aimé.
Un film que je t'ai forcé à voir. Je force personne jamais.
Et du coup, t'as vu? T'as fait, regarde, donc c'était la VO, enfin une des chansons de Scarface.
Ok, oui, Scarface, oui, c'est vrai que t'es forcé à voir ce film.
Il me semble que ça fait quand même partie des films que tu kiffes. Hein.
Ouais, carrément.
Ok.
Giorgio Moroder, du coup, mais je connais pas toute la BO par cœur, c'est vrai.
Bah, j'ai essayé de trouver, enfin, c'est pas toujours le cas, mais j'ai quand même essayé de trouver des chansons qui n'étaient pas les plus au devant, quoi.
Oui, celle-là, elle est plus compliquée.
Elle est un peu plus obscure, on va tester ça.
Moi, ça, c'est Star Wars, du coup.
En trois notes. Et Star Wars, je connais moins, du coup, j'ai moins pu gérer les questions de mes connaissances, tu vois, enfin, de chansons plus ou moins obscures, plus ou moins connues.
Bon, celle-là, elle est assez connue, c'est celle du duel entre Anakin et Obi-Wan. Assez épique dans La Revanche des Sith, du coup.
Wow.
John Williams, le meilleur du monde, enfin, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de gens, notamment Romain Montiel.
C'est pour ça que tu l'as choisi.
Qui a un portrait de John Williams juste au-dessus de son piano, donc quand il compose, il est observé par le maître.
Dernière chanson de mon quiz, c'est une chanson que j'affectionne particulièrement, on va voir si tu arrives à retrouver. J'essaye de caler cette chanson dans toutes mes émissions. C'est ma petite obsession personnelle.
Thank you. Ah. Je l'ai peut-être, ça serait pas dans un Harry Potter où les
animaux... Absolument.
Ouais, voilà.
Absolument, ça fait partie du sixième film d'Harry Potter. C'est la scène où Harry prend le Felix Felicis et se rend chez Slughorn. Et c'est la scène où Slughorn lui raconte l'histoire de Francis, le poisson.
Oui,
tu te souviens ?
Oui, bien sûr.
Et c'est le moment où du coup Harry veut le convaincre de lui donner le souvenir qu'il cache en lui disant si vous cachez cette information, le bocal restera vide.
Ouais, ouais, excellent.
Et je trouve en fait cette scène absolument touchante, absolument magnifique.
Elle est très intéressante cette BO, celle du 5 et du 6, le compositeur, j'ai oublié son nom parce qu'il n'est pas très connu, mais pour moi c'est le seul qui a été vraiment à la hauteur de ce qu'a créé John Williams pour les trois premiers. Mm. C'est vraiment magnifique comme BO, et très subtil, un peu moins thématique. Et grandiloquent.
Tu veux dire, épique, emblématique,
ouais,
ça veut dire ?
C'est un poil moins emblématique, mais au niveau de l'émotion, ça fonctionne de ouf, quoi.
Mais elle est magnifique, cette chanson.
Ah oui, magnifique.
Franchement, c'est rare parce que vraiment, Harry Potter, en plus, moi j'aime bien me rappeler de l'existence d'Harry Potter, c'est ça que j'attends de la BO. Mais cette chanson-là, particulièrement, t'as envie de l'écouter, elle est magnifique. On touche à la fin de notre émission. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce qu'il y a éventuellement. Une chanson, quelque chose que t'aimerais qu'on écoute. Je pensais peut-être à Sunny Day de Peau de Crème.
Ah oui, carrément.
Ah, il y a soit Sunny Day, soit Woke Up This Morning. Qu'est-ce que t'as... Enfin, comme tu veux. Après, tu peux me dire s'il y a d'autres choses.
C'est vrai que Woke Up This Morning, c'est très tentant, mais Sunny Day, étant donné que c'est un petit groupe canadien qui nous a offert gratuitement sa musique pour qu'on puisse la mettre dans...
Comme Juliette, d'ailleurs.
Juliette, on a payé, mais...
Ok.
Mais bon, ils ont fait un très beau geste. Mais Sunny Day, du coup, non, le gars, directement, le compositeur, m'a dit, je lui ai montré Abondance, il m'a dit, trop cool, vas-y, utilise-la.
Et donc, Sunny Day, c'est une musique qui a été composée récemment, ou c'est une chanson qui a 30 ans ?
J'ai toujours cru que c'était un truc des années 60, et pas du tout, ça a été fait dans les années fin 90-2000, et c'est un groupe hyper rétro qui s'appelle... Orange Alabaster Mushroom, que j'avais découvert en cherchant le plus de trucs obscurs, psychédéliques possible. Je suis tombé sur ça et je tombe amoureux de cette musique, donc je l'ai mise dans mon film avec l'aimable autorisation du groupe.
Écoutons Sunny Days, donc.
Morning. I walk the town, it's such a sunny day. I look around, I'm in the mood to play. I'm on the ground, I watch the clouds go by. I'm lying down, but I'm flying high. I look at you, I climb your family tree. Enjoy the view, so many sights to see.
Okay. right through the happy things I see. The things you say to me reflect and fade away. I will find today something to pass the time. I'll wipe away the slime and watch the residue. I can see right through the happy things I see.
Voilà, on se quitte. Si vous voulez retrouver le travail de Chris Oliver, je vous invite à aller regarder la bande-annonce de Pot de Crème Glacée ainsi que sa web série sur sa chaîne qui s'appelle Diogène Studio. Restez avec nous sur Radio Galère, puisque c'est Poésie in the City qui vous rejoint dans quelques minutes. Merci beaucoup Chris.
Merci à toi.
Allez, bonne journée, bon après-midi sur Radio Galère.
88.4 Radio Galère.